Pourquoi serions-nous encore prêts à mourir? C'est le titre de votre livre qui vient de paraître aux éditions du Cerf. Sur la quatrième de couverture, vous voulez que nous nous arrachions au somnambulisme, au déni et à la lâcheté dans lesquelles nous nous complaisons depuis le massacre de Charlie. Pourquoi de telles accusations?
Oui, écoutez, c'est un constat. Il me semble qu'on oscille depuis Charlie, effectivement, entre le déni et l'effroi. On aura remarqué les différentes phases au lendemain de chaque attentat. D'abord, la sidération et la compassion. Ensuite, on s'interroge sur les raisons pour lesquelles le brin de jugeote nous manque une fois de plus pour mieux nous défendre. Et puis, phase 3, retour à la resociologisation des assassins rebaptisés chômeurs discriminés. Et je trouve que cette situation est assez calamiteuse puisqu'elle fait finalement le bonheur des salafistes, le bonheur de l'extrême droite parce que les gens affolés votent pour elle, et ça risque de faire le malheur des musulmans en général, puisque quand on aura des attentats qui feront des centaines de morts consécutifs, eh bien, on risque de verser dans une hostilité indiscriminée à l'égard des musulmans. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est la façon dont nos deux livres avec Mathieu Terrence se rejoignent, de l'avantage d'être en vie, et mon livre porte aussi sur la question de savoir qu'est-ce qu'un homme vivant. Et là, on passe du sous-titre au titre, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'un homme vivant ? À mes yeux, c'est justement un individu encore capable de se demander pourquoi, c'est-à-dire pour quels idéaux, pour quelles valeurs et au nom de quel héritage il serait éventuellement prêt à se battre et éventuellement à y laisser la vie.
Il me semble que vous arriviez aux mêmes conclusions avec Mathieu Terrence.
Peut-être,
pour avoir écrit les deux
mais
livres,
quand même,
je pense qu'il y a un monde qui vous sépare.
Il me semble que cette question-là, elle n'est ni martiale ni radicale. Elle est absolument minimale. C'est-à-dire qu'on a affaire à des types abjects qui savent très bien pourquoi ils seraient prêts à mourir. Et nous, on est un peu nihiliste, et là je suis d'accord avec Mathieu, on a des taux de TVA, des courbes, des points, des indices, nos retraites, etc. Bon, on va pas se sacrifier pour tout ça. Et il ne faudrait pas avérer justement la prophétie de Philippe Muret, qui dans sa lettre aux chers djihadistes en 2002, disait de façon très ironique et très cruelle aux djihadistes, craignez le courroux du vacancier descendant de son camping-car en Bermuda. Et il annonçait la suite en ces termes, nous serons assurés vraiment les plus forts, car nous sommes précisément les plus morts. Alors, il me semble
On pourrait dire que justement, il faut craindre effectivement le courroux de l'homme en Bermuda, parce que jusqu'à présent, il s'est toujours très très bien défendu. Hitler disait la même chose, il disait jamais les Américains ne nous battront, parce que regardez, ils sont trop bien nourris, ils sauront pas se battre, et puis les Américains ont su très très bien se battre.
Mais vous trouvez que
et
la
on
France
a dit la même chose contre l'Union soviétique, et finalement, c'est quand même le camp occidental qui l'a emporté à la fin de la guerre froide.
Certes, mais tout de même, on peut quand même admettre que l'Europe a un peu 15 ans de retard à l'allumage sur la question de l'islamisme, de sa version extrême qu'est le djihadisme. Et il me semble qu'on ne peut pas dire ces dernières années, avec les attaques qui se succèdent, que nous sommes extrêmement bien préparés.
Mais vous avez l'impression que quelques milliers, on va dire, allez, milliers de djihadistes pourraient véritablement mettre à bas l'Europe, la France, vous le pensez sérieusement, Alexandre?
Parce qu'ils exportent leur sale guerre partout, qu'elle s'est mondialisée et que ça correspond aussi, et je crois que les gens connaissent mal aussi le monde arabe, j'y passe la moitié de l'année, il y a une poussée islamiste profonde qui travaille les sociétés musulmanes. Enfin, je veux dire, tous les intellectuels musulmans éclairés sont les premiers à le dire.
Mais ça ne se traduit pas forcément par la volonté de mitrailler les gens dans les rues, ville comme Paris.
Non, mais ce n'est pas complet. Ce sont deux choses qui ne sont pas complètement étrangères, c'est-à-dire que ceux qui nous tuent ne surgissent pas de nulle part.
Ils viennent généralement des banlieues françaises.
Oui. Il me semble qu'il faudrait impérativement se poser la question, si on veut justement sortir du nihilisme et de l'absence de transcendance, se demander justement quel sacré laïque on pourrait opposer à nos adversaires si on veut encore former un nous. J'entends par sacré laïque un certain nombre de valeurs qu'on estime non négociables et pour lesquelles on serait prêt à s'engager absolument.
Vous n'avez pas l'impression que tout le monde est d'accord là-dessus c'est-à-dire que depuis les attentats contre Charlie, tout le monde a manifesté à la fois en faveur de la liberté mais aussi de la tolérance, de l'intelligence, de l'humanisme, de l'égalité, de la science, du plaisir, de l'art... et de la démocratie,
certes,
éventuellement.
Mais
on est tous d'accord là-dessus.
Oui, mais vous avez vu, par exemple, le 11 septembre, manifestation monstre, du jamais vu depuis 1945.
Le 11 janvier, pardon.
On y était tous. Et la semaine suivante, on en était déjà à se demander, esprit du 11 janvier, où es-tu ? C'est-à-dire qu'il me semble que communier dans le compassionnel et l'émotionnel, c'est très bien, mais ça ne suffit pas.
J'ai l'impression, pour avoir lu votre livre, que vous voulez des mesures plus, on va dire, radicales.
Non.
Je sais pas, page 38, vous parlez d'inscrire dans le droit la notion de dangerosité,
oui,
par exemple, afin de mettre en détention des énergumènes avant qu'ils commettent des crimes. Avant qu'ils commettent des crimes ?
Oui, je suggère la détention administrative quand on a affaire à des individus connus des services de police, qui ont déjà des casiers judiciaires longs comme le bras, qui sont connus pour leur sympathie salafiste, et dont on a, à propos desquels on a un certain nombre d'éléments laissant raisonnablement penser, il ne s'agit pas d'ouvrir les portes à l'arbitraire, bien sûr. Qu'ils pourraient commettre un assassinat. Je veux dire, tous les terroristes de ces derniers temps étaient déjà connus des services de police. Si bien qu'on a des fichiers S qui se promènent en toute liberté dans la nature, nos dirigeants étaient perchés sur Mars. Bon, il commence.
Vous savez bien qu'il y en a plusieurs qui n'avaient pas de fichier S. Mais je vous ai bien compris, on les met tous en prison avant qu'ils aient commis quoi que ce soit,
parce qu'ils
sont dangereux.
Ceux dont on a des raisons sérieuses de penser qu'ils pourraient passer à l'acte. Il me semble qu'il vaudrait mieux... je veux dire, quand on a un ennemi, quelqu'un qui vous tue, on mobilise quand même la volonté politique de le mettre hors d'état de nuire. Il me semble que la réponse par le pot en terrasse de l'après-Bataclan n'est vraiment pas à la hauteur du défi.
Ben, c'est montrer qu'on n'a pas peur.
Mais non, je crois qu'il y a là un contresens, justement, qui est d'autant plus redoutable qu'il passe inaperçu parce que cette initiative-là, entre autres initiatives, était sympathique et bon enfant. Mais si on y réfléchit deux minutes, je crois qu'il ne suffit pas d'opposer au fléau djihadiste la platitude du vivre, parce que c'est justement comme ça qu'on se désarme. Pourquoi ? Parce que, comme disait Yankelevitch, si on n'est plus capable de placer ses raisons de vivre au-dessus de notre survie même, en cas extrême,
D'aller prendre un pot en terrasse le lendemain des attentats, c'est dire, regardez, je préfère risquer ma vie en prenant un pot en terrasse plutôt que de ne plus prendre de pot en terrasse.
Non, je dirais que c'est une façon de dire la vie doit immédiatement reprendre ses droits avant qu'elle ne se reprenne elle-même. C'est-à-dire, c'est une façon de dire aux djihadistes, pour nous autres Européens, la vie est la valeur suprême et à cet égard, on ne cédera pas un pouce de trottoir. Sauf que, si la vie est tout, justement, elle n'est rien, enfin, elle n'est plus grand-chose. Comme disait encore Yankelevitch, c'est une vie de fourmis et de ruminants. C'est un vivre couché.
Parce que vous voulez
c'est
voir
un vivre
les gens
à l'horizontale.
Prenant des pots en terrasse le lendemain des attentats comme des gens qui disent « moi, je mets la vie au-dessus de tout » alors qu'ils sont, au contraire, ils sont en train de montrer « je mets la liberté et le plaisir au-dessus de tout ». Ils ne sont pas en train de dire « je ne me battrai pour rien ». Ils sont en train de dire « en prenant un pot en terrasse, je n'ai pas peur, donc je me bats contre
moi ». Mais en même temps, ce sont les mêmes qui, un mois plus tard, manifestent contre l'état d'urgence, hurlent mort aux flics et considèrent que le plan Sentinelle, c'est le triomphe du parti de l'ordre.
C'est-à-dire puisqu'ils sont pour la liberté, c'est ça la valeur suprême chez nous.
Oui, mais je crois qu'il faudrait que seul le fait de se poser la question de pourquoi on serait encore prêt à se battre, de se la poser vraiment. Et cette question est ouverte à tous. Je veux dire, les musulmans se la posent aussi. Les musulmans normaux, ils n'en peuvent plus de la complaisance.
De notre complaisance.
J'habite en Seine-Saint-Denis, bon, vous le savez. J'ai beaucoup de musulmans normaux autour de moi. Le pot en terrasse de l'après-Bataclan, ils s'étranglaient de rage. Parce que ça ne leur semblait pas la bonne... Enfin, si, c'est une réponse, mais elle ne suffit pas. Il faut aussi qu'elle s'accompagne d'un redressement intellectuel et moral.
On en parle dans un instant.
Merci.
Europe 1 Social Club.
21h, 22h.
Frédéric Taddeï.
Toujours avec Alexandra Léniel-Lavastine qui publie « Pourquoi serions-nous encore prêts à mourir ?» aux éditions du CERF. Alors justement, la question, posons-la, puisque vous voulez qu'on la pose. Pourquoi Serions-nous encore prêts à mourir? Moi, je vous l'ai dit, il me semble qu'on mourrait sans problème pour la liberté, pour la tolérance, pour l'humanisme, pour la science, pour l'égalité, pour le plaisir, pour l'intelligence, pour la démocratie, pour l'art. Il me semble que tout ça est très bien installé dans notre société. Ce sont des valeurs sérieuses avec lesquelles on ne transige pas. Vous n'avez pas l'air d'accord?
Non, je trouve qu'au contraire, on capitule beaucoup trop. On est dans les accommodements. Et ce qui me paraît tout à fait emblématique, par exemple, de cet état d'esprit, c'est la déclaration de Cazeneuve à la fin de l'été meurtrier 2016. Ahurissante, c'est-à-dire, il dit, remarque tout à fait sibylline que personne n'a relevé, nous avons plus que jamais, donc après l'été sanglant, besoin d'une relation apaisée avec les musulmans. Bon, très bien, rien à dire, sauf que ça revient à faire quoi ? À insulter les musulmans, qu'on met tous dans le même sac, sans vergogne, c'est-à-dire les massacreurs et les massacrés, les normaux et les extrémistes. Deuxièmement, s'il faut l'apaiser, c'est qu'elle est tendue. Elle est tendue avec qui ? Elle est tendue avec les fondamentalistes. Bon, donc c'est eux qu'il faut caresser dans le sens du poil, de façon à ce qu'ils nous aiment davantage. Et troisièmement, cela envoie le message suivant aux musulmans qui sont de bons citoyens et qui ont en horreur les djihadistes, c'est-à-dire, de la part d'un ministre de l'Intérieur, c'est quand même pas mal, vous n'avez qu'à vous taire et bien vous tenir. Donc ça me paraît très très révélateur. Et comme Mathieu, je dirais qu'il y a de là-dedans une espèce de un ramollissement consumériste, une longue habitude de la paix, et puis l'idée qu'on a toujours plus de droits que de devoirs. En certaines périodes, il est possible qu'on nous ayons plus de devoirs que de droits. Et puis il me semble que les marches, les pots en terrasse, etc., ne permettent pas de libérer un espace qui précisément nous soustrait à la peur. Et la peur va avec le déni. Et le déni va aussi avec les dispositifs de repli du déni. C'est-à-dire quand on peut pas nier parce que on a l'évidence sous les yeux, eh bien on minimise, on animalise, on a des loups solitaires, on euphémise, on a des enfants perdus du djihad. Maintenant on psychiatrise, on a même des djihadistes avec antécédents psychiatriques ou des djihadistes défoncés. Enfin, on invente toujours des nouvelles catégories. C'était le cas de Orly. Et ce que je trouve aussi symptomatique, c'est la façon dont nous traitons nos soldats. Ils sont quand même pratiquement 10 000 aujourd'hui à patrouiller dans nos rues. On adore la France de la diversité, mais c'est bizarre, on la célèbre sur tous les tons, sauf là, précisément où elle se tient vraiment debout, c'est-à-dire parmi les soldats du rang, qui sont tous issus, enfin la plupart, issus des quartiers sensibles. C'est eux qui nous défendent en ce moment. Et je trouve qu'on honore bien mal aujourd'hui la figure du combattant, qu'on honore mal nos soldats, et cela va, me semble-t-il, avec le fait qu'on a beaucoup de mal à renouer en nous-mêmes, d'une certaine façon, avec la figure du combattant, comme si les qualités qu'il incarne, c'est-à-dire, dans l'idéal, l'abnégation, la droiture, le fait de faire abstraction de soi, ne nous étaient même plus accessibles. Et pour moi, le nihilisme, il est là.
Mathieu, Terrence ?
Il y aurait beaucoup de choses à dire.
Je pensais que vous alliez dire « et alors ?» comme Andy Warhol.
Un petit peu. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses. C'est un sujet qui exacerbe toutes sortes de sensibilités. Mais par exemple sur la notion de combattant, c'est très difficile de savoir à l'avance ce que peut produire une population qui est en paix et qui se vit en paix dès lors que on n'a pas déclaré qu'il y avait une mobilisation générale et que
La France n'est pas menacée, elle n'est pas menacée comme elle était par l'Allemagne.
Il n'y a pas de mobilisation générale parce qu'on a une armée de métier.
Il s'est passé quelque chose en 1939.
Mais on n'est pas menacé, la France n'est pas menacée, Alexandra.
Bien sûr que si. Tout chaque pays européen est menacé.
L'Empire français était menacé par les indépendantistes. On est allé faire la guerre en Indochine et en Algérie. Quand la France a été menacée par l'Allemagne, on a déclaré la guerre à l'Allemagne. Vous n'allez pas me dire que c'est les terroristes de Daesh qui menacent aujourd'hui notre pays dans son existence même.
Notre ennemi, c'est une idéologie. Et pour notre malheur à tous, ils ne sont ni fous ni nihilistes. Ils sont islamistes.
Ils sont nihilistes en un sens. On peut voir des liens avec cette histoire. Jacobi est le premier qui qui utilise le mot nihiliste dans une lettre à Fichte où il parle de Kant qui ne croit pas en Dieu. Hein. Et ensuite, on a Dostoïevski qui parle de Pushkin, Tourguenieff utilise ce mot, Dostoïevski fait un très beau portrait des nihilistes dans Les Possédés, au fond. Une libido suicidaire, un obscurantisme, Tchigalev, leur nom, Kirillov, leur nom, les trois m'échappent, mais et on peut alors là, excusez-moi, hein, je veux pas, on peut faire des rapports entre ces figures-là et les gens qui aujourd'hui se font sauter et tuent et anéantissent des vies. Ils ont aussi leurs histoires et leurs parcours. Ils sont aussi, c'est intéressant aussi d'analyser d'où ils viennent, voyez. Je crois que c'est intéressant en fait. Voilà, je ne dis pas que j'ai raison. Je crois que c'est intéressant de voir d'où ils viennent, quel a été leur processus. Je crois que ce n'est pas idiot de d'évincer totalement la question psychiatrique dans quelqu'un qui décide de tuer 200 personnes qui sont allées voir un concert. Et je trouve, en tout cas, moi, ça m'apporte quelque chose à la compréhension si j'utilise des lignes, des focales de psychiatrie, de sociologie, et évidemment avec un fanatisme qui vient magnétiser la chose. C'est mon point de vue, je ne dis pas que j'ai raison, en tout cas j'ai l'impression de mieux comprendre ce qui se passe avec les personnes dont on a connu le nom à la suite des attentats. Et moi, ma tendance a été de voir d'où ils venaient, quel avait été le parcours, qu'est-ce qui était le nihilisme en eux qui prenait comme véhicule un fanatisme religieux. D'ailleurs, voilà. Enfin,
Alexandra.
Oui, écoutez, bon, Mohamed Merah est un tueur et un assassin d'enfants juifs. Son frère a écrit un livre pour dire tout le dégoût que ce type lui inspirait. Bon, les trois soldats qu'il a assassinés étaient eux aussi issus des quartiers et de l'immigration. Je crois que les hommes ont tout de même un libre arbitre. Ils ont une part dans le choix qu'ils opèrent.
Écoutez, moi je crois que le grand refoulé, c'est Freud. Et que il n'est pas mauvais quelquefois de mettre une pincée de Freud dans le fanatisme. Je crois qu'il avait vu venir dans, par exemple, Malaise dans la civilisation, il avait vu venir le nazisme. Et je crois que si on prenait un peu de Freud pour regarder qui est Merah exactement, on n'évincerait pas la question de la religion, mais on aurait d'autres éléments qui permettent de comprendre qu'une mayonnaise prend de cette façon-là pour aller ensuite buter des enfants. Voyez.
Moi, je suggérerais de mettre un peu de Sartre, de l'existentialisme est un humanisme, c'est-à-dire, l'être est un homme de liberté qui a une part quand même dans les choix, dans le choix qu'il opère dans sa vie, dans la construction de son destin. Il n'est pas enchaîné à ses déterminismes.
Pourquoi serions-nous encore prêts à mourir ? C'est le livre d'Alexandra Léniel-Lavastine qui vient de paraître aux éditions du Cerf.